Jean-Olivre, bonjour. Vous êtes géographe, bien connu en Bretagne, une région que vous défendez particulièrement bien. Vous êtes signataire avec, et co-auteur d'ailleurs avec Daniel Cueff d'un appel pour l'équilibre urbain de la Bretagne. Expliquez-nous un peu le sens de cette démarche.
Je crois que l'enjeu social est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que on constate scientifiquement aujourd'hui des phénomènes d'exclusion des plus pauvres en lointaine couronne périurbaine. Et on n'a pas un seul exemple dans le monde d'une concentration métropolitaine qui ne freine le déferlement de la périurbanisation et le déferlement périphérique. Et aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, ça provoque des problèmes d'exclusion tout à fait importants, hein, qui ont été démontrés par plusieurs auteurs. On peut prendre Christophe Noah, Christophe Guilly dans l'Atlas des fractures sociales. Et ce sont surtout les employés, les ouvriers qui sont chassés et donc sont obligés de réaliser des navettes onéreuses, de plus en plus avec le prix du pétrole, laborieuses. Et on a un phénomène d'exclusion par la mobilité qui est incontestable. Donc par rapport à ça, il y avait une volonté rennaise de grossir, une grosse métropole. L'idée, c'était quand même de réagir parce qu'on là, on est en train de fabriquer de l'exclusion sociale en lointaine couronne. C'est sans doute une négation d'une sorte d'organisation bretonne qui est au contraire à privilégier.
Alors justement, cette organisation bretonne, petite et moyenne ville, vous pouvez nous la décrire un peu ? C'est parce que c'est un tout finalement. Rennes est une grande ville, mais elle fait partie aussi de cet équilibre plus global.
Tout à fait. Enfin, c'était ce que disait donc Gilbert Le Guen, qui était démographe breton. Il disait la Bretagne est le pays des villes modestes. Alors il y a d'autres territoires un petit peu concernés par ça aussi, mais on est quand même très très loin de Toulouse et du désert toulousain. Et la particularité bretonne, là par contre assez unique, c'est qu'on a un continuum qui va de la maison isolée, hein, d'une petite quasiment à la ferme isolée, jusque la ville relativement grande comme Rennes, comme Nantes, etc. Et donc on a un continuum, on n'a pas de discontinuité là-dedans. Et du coup, l'opposition un peu schématique opposant monde urbain, monde agricole, ça ne correspond pas du tout à une réalité, c'est beaucoup plus complexe en Bretagne, et on a des assemblages urbains de toutes les tailles, donc un maillage de villes qui favorise aussi beaucoup de proximité. Et beaucoup de géographes anglo-saxons ou scandinaves nous disent que la ville finalement durable du futur, c'est une ville où il y a la proximité entre les emplois, les commerces, le logement. Et donc, on a finalement une proximité pour les déplacements. Je vois dans les gens qui habitent à Lamballe et travaillent à Lamballe, ils mettent 9 minutes en moyenne. Et plus vous allez vers une grande ville, plus les déplacements s'étendent. Hein, Saint-Brieuc, c'est déjà 50 minutes. Et donc, on a en fait une exclusion, par la mobilité, d'autant plus forte que la ville est puissante.
Alors, est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique d'une époque où on désindustrialise et on tertiarise, si j'ose dire ? Je ne sais pas si le terme est propre, hein, mais bon, est-ce que ce n'est pas le modèle dominant aujourd'hui par grand pôle ? Est-ce qu'il ne suit pas un peu ce schéma de cette carte de l'emploi ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette belle question, parce qu'en fait, pour moi, la ville, l'émergence de la ville, c'est lié à la société de la vitesse. Ça a commencé surtout en 1850, puisque en 1800, on n'a que 10% de la population européenne qui est urbaine. Donc, le phénomène de grande métropole existe très peu, même s'il y a quelques exceptions. Et une ville, finalement, elle progresse en agençant les complémentarités de production entre les territoires distants. C'est ça, quoi. On spécifie un peu les activités rurales, alors qu'avant, chacun faisait son beurre, son site, d'agriculture familiale. Là, on spécifie les activités rurales. Et la ville, effectivement, organise la logistique. Donc, il faut compter, organise tous les actes d'achat, etc. Donc, il faut s'inscrire. Et ce phénomène de tertiarisation est lié aussi à une énergie bon marché. C'est-à-dire que la métropole progresse en liaison avec un coût de l'énergie lui permettant justement de mettre en complémentarité ces ressources distantes. Et aujourd'hui, il n'est pas certain que ce phénomène se poursuive. C'est-à-dire qu'on a une constante historique assez intéressante, c'est que plus le coût de l'énergie augmente, plus le périmètre de la vie des gens se restreint par la force des choses. Et actuellement, on a quand même des personnes qui sont projetées à 50 km des villes et tout, qui ne peuvent plus se déplacer pour des raisons de coût. Et vous regardez, si vous gagnez le SMIC, 1300 euros, vous regardez le prix que coûtent ces différentes navettes. Il y a des gens qui préfèrent arrêter de bosser. Plutôt, on l'avait vu notamment en juillet 2008, hein, quand le prix de l'essence avait beaucoup, beaucoup augmenté.
Des gens sur les $100.
Voilà, là on est à 106 aujourd'hui, je crois.
Situation de crise.
En situation de crise.
C'est pas
et comme il reste 30 à 40 années de pétrole, certains nous disent que le prix à la pompe pourrait être multiplié par 3, par 4, ou par 5, ou par 10. Donc, si vous mettez un prix d'essence à 600 € ou 700 €, imaginons le pire, que vont devenir ces espaces métropolitains qui sont actuellement, qui fonctionnent avec, je le répète, ces navettes des plus pauvres qui viennent faire les petits emplois souvent dans la ville. Donc, où est la modernité? Ce qu'on disait dans l'appel, c'est que sans doute la Bretagne n'est pas en retard d'urbanisation, mais en avance d'urbanisme. Elle a un modèle complètement original, présenté comme durable par beaucoup de personnes. Donc, confortons cet acquis. Ce qui permet en plus d'avoir un développement partagé sur l'ensemble de la Bretagne, de Nantes à Brest, de Rennes à Quimper, etc. Et d'avoir finalement un territoire organisé de manière aussi équilibrée, d'avancer ensemble.
Alors, on est dans une République française qui a fait du paysan son soldat, et avec un monde rural qui l'est resté assez longuement, contrairement à l'exemple britannique, par exemple, là, où l'industrialisation s'est développée autour des villes, justement. Nous, on n'a pas vraiment suivi cet exemple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne tourne pas le dos, est-ce que la France, globalement, ne tourne pas le dos à ces territoires ruraux ?
Il y a une approche en France extrêmement duale, presque dichotomique. D'un côté, c'est la ville, de l'autre côté, c'est l'agriculteur. C'est ça, en fait. On voit même dans les SCOT et les PLU, les schémas d'aménagement, où on a une sorte de zoning comme ça, avec espace naturel, espace agricole, espace urbain, continuité du bon. Et en réalité, quand on va au-delà des frontières françaises, quand on regarde un petit peu au-dessus du talus tricolore, on constate que partout en Europe progresse au contraire l'aménagement par la ruralité. En Haute-Autriche, vous avez des ceintures énergétiques qui se créent autour des villes pour avoir une économie organisée par des gens de la ruralité. En Allemagne, vous avez 7000 usines de méthanisation et les agriculteurs gagnent 30% de leurs revenus en produisant de l'énergie. Et en France, on a oublié tout ça, notamment en raison du poids des lobbies énergétiques qui ont énormément freiné les énergies renouvelables. En Bretagne, si on prend l'exemple du Méné, ils ont décidé d'être 100% autonomes énergétiquement en 2030. Ils sont déjà, je crois, à 25%, ils sont pris en charge. Mais ça a été redoutable, quoi. Il a fallu, je crois, 12 ans pour obtenir l'agrément pour l'usine de méthanisation de Geotexia alimentée par 56 éleveurs porcins. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de dépenser de l'argent pour faire venir du pétrole, du gaz de l'extérieur, ils ont créé des systèmes avec le bois, ils ont créé l'usine de méthanisation, ils se prennent en charge, quoi. Et l'avenir est là. Mais la France, en fait...
Dans ses territoires.
L'avenir est une économie par les territoires. Rechercher, redécouvrir ce qu'on a sous les pieds pour aller de l'avant. Et c'est plus une économie sur les territoires. C'est, je crois, l'avenir réside dans cette capacité à comprendre, connaître le lieu dans lequel on vit. Je appelle ça l'économie de la connaissance, naître avec le lieu où on est. Et il y a tout en Bretagne pour réussir, quoi. Un environnement, malgré quelques problèmes circonscrits, fantastique. Et si on revient aux fondamentaux bretons, Ndour, Ndouar, Navel, Ntan, la terre, la mer, l'eau, le feu, etc. Il y a tout pour produire, par exemple, de l'énergie, le vent, la houle, etc., le bois. Enfin. Et en plus, il y a des compétences, des gens qui sont bosseurs. Donc là-dessus, quand je vois qu'on importe 91% de l'énergie qu'on consomme en Bretagne, c'est autant d'argent qui part par les fenêtres, quoi. Et là, la région a progressé grâce à l'action. On était à 5% il y a quelques années. Mais il y a des dizaines de milliers d'emplois à la clé en retrouvant cette économie, justement, davantage de proximité et de territoire, qui ne doit pas être une économie autarcique. Ça, j'insiste là-dessus. C'est pas quelque chose un retour, quoi. Le local, ça peut être aussi un bocal, comme dit de temps en temps. Attention à ça, il faut être très ouvert sur l'extérieur, piocher ailleurs les innovations, parce que en breton, on va pas tout inventer, évidemment. Et voir ce qui se fait ailleurs. Je parlais de la Haute-Autriche, on peut aller parler de la Suède, il y a des choses extraordinaires. Et puis voilà.
Oui, en fait, quelque part, on va pas non plus importer des solutions toutes faites. C'est à nous de créer nos propres solutions. En même temps, quand on regarde l'aménagement du territoire, on parle de braise riviera, ou du risque de la braise riviera, c'est-à-dire finalement une économie exclusivement touristique, et puis aussi des déplacements de revenus, c'est-à-dire des gens qui reviennent en Bretagne, plus souvent en retraite, ce qui donne aussi forcément une dichotomie entre les lieux de création de richesses, si on prend le PIB, la croissance, et puis les revenus réels sur un territoire ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que vous croyez que les acteurs politiques ont pris conscience de cet état de fait, c'est-à-dire
Alors oui, ça revient à parler de un peu de ce qu'on appelle l'économie dite résidentielle, quoi, avec une capture des revenus externes à partir de la théorie de la base. Globalement, moi je parle de déséconomie résidentielle. C'est-à-dire que effectivement, cette économie dite de la redistribution, où on a des riches qui vont venir sur les côtes, du coup faire travailler les jeunes et tout, c'est basé quand même sur le pari que les retraites vont rester constantes, ce qui est loin d'être évident avec un pays qui est un peu en faillite, hein, dit-on, 1 800 milliards d'euros de dette, des problèmes, puis le vieillissement de la population qui va énormément progresser. Donc attention, la clé de l'avenir des territoires, c'est une économie productive. Et ça, effectivement, je ne suis pas persuadé que tous les élus... l'ont compris. On a parfois aussi des intérêts politiques. Hein, on a constaté une droitisation de certaines communes sur le littoral. Certains qui font venir des retraités riches et puis du coup, ben, ils préfèrent faire parfois des résidences secondaires plutôt que d'avoir une économie tangible. Et du coup, on a un problème très grave en Bretagne, c'est celui de l'exclusion des jeunes des communes littorales. On assiste actuellement à des fermetures d'écoles, à des diminutions considérables d'effectifs. Et je donnais l'exemple de Saint-Malo aussi, on a gagné une demi-heure en TGV avec l'équipement caténaire. Eh bien, Saint-Malo, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, a vu sa population divisée de 2%, c'est quand même 1000 habitants. Et le nombre de personnes payant l'ISF a été multiplié par 3. Donc il y a quand même des risques, vous voyez, de cette économie un peu littorale. Ponctuellement, oui. Pourquoi pas une activité de très haut standing. Et puis, comme ça, effectivement, il y a des gens très riches à qui payent. Quoi. Il y aura toujours une minorité de gens très riches, malheureusement, enfin, ou heureusement, peu importe. Mais par contre, attention à ne pas en faire un projet de Braise Riviera, tout sauf ça. Quoi.
Je vais revenir là sur le projet de réforme territoriale, hein, ce qui a quand même motivé votre appel pour l'équilibre urbain. Rennes, l'impression que, enfin les élus, on ne parle pas des Rennais, hein, mais sur ce projet-là, parlent souvent du rayonnement international de Rennes. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce rayonnement, est-ce que c'est pas l'assèchement du reste du territoire?
Oui, je crois qu'on confond de manière permanente le quanti et le quali en France. C'est-à-dire que quand c'est important, quand c'est gros, ça marche mieux. Non, c'est pas les plus gros qui avancent forcément les plus rapidement. Dans d'autres pays, on distingue considérablement le quali du quanti. On essaye davantage sur la qualité de vie que des notions de taille critique. Le mot est intéressant d'ailleurs, l'expression taille critique. Effectivement, elle est la taille critique. Avec là des seuils de 450 000 habitants, 500 000 habitants, etc., à partir duquel on aurait plus d'argent, hein, par citoyen, pour faire la prospérité. Personnellement, j'en suis pas sûr. Surtout pour le rayonnement, Rennes est très peu connue à l'échelle européenne. Même Nantes. Les villes françaises, finalement, elles sont tellement décrochées par rapport à Paris au niveau de taille, précisément, qu'elles restent modestes. Et à mon avis, c'est tant mieux. Du coup, l'image et le rayonnement, ils passent par où? C'est par une dénomination régionale forte. Et surtout pas un Grand Ouest, il y en a des milliers dans le monde et il n'y en a aucun. Mais une appellation Bretagne, qui, elle, est connue nationalement et un peu internationalement. Et c'est ce que démontre par exemple Produit en Bretagne. Alors je vois qu'il y a des marques maintenant qui commencent à sortir de tous les sens. Produit dans le Finistère. J'ai demandé à un Italien ce qui va. Produit à Rennes, produit. Enfin bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va bientôt créer peut-être une marque du hameau de Kerriuel. Hein, ce serait. Non, il faut arrêter ces bêtises. C'est-à-dire que là, on dilapide l'argent du contribuable, alors qu'il y a quelque chose qui a fait ses preuves, mené par une association, qui est quasiment autonome au niveau budgétaire. Oui, c'est l'image de la Bretagne qui compte. Et là-dessus, Rennes est parfois de plus en plus loin de la Bretagne. Est-ce que c'est la véritable capitale de la Bretagne? C'est une vraie question. Le collège Diwan a été refusé à Rennes, donc il allait s'installer à Nantes. Alors, je sais que c'est un symbole, mais il est parlant.
Donc il y aura un décrochage finalement de Rennes par rapport à son territoire d'élection historique.
Je crois qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que l'image bretonne est une image de bénéfice. Cela n'a pas toujours été le cas, mais actuellement c'est très vrai. Je voyais, il y a 10 supermarchés, hypermarchés Leclerc de Loire-Atlantique qui sont rentrés à produire en Bretagne. Pourquoi? Parce que les gens veulent vendre les produits et les commerçants les clients veulent les acheter, tout simplement. Il y a 20 communes de la Bolle qui cherchaient une appellation porteuse pour le développement économique. Ils ont choisi Bretagne Sud. Donc le vent tourne quelque part. Et cette réunification dont on parle tout le temps, elle se fera, je crois, naturellement. Elle est en train de se faire pour des raisons économiques, malgré les réticences de finalement trois élus qui sont un peu établis sur leur strapontin. C'est un petit peu ça. Hein. C'est ce Auxiette, Hérault. Il y a aussi Fillon qui violemment contre. Mais ça se fera presque par la force des choses et naturellement. D'ailleurs, la Bretagne, elle existe déjà quelque part. C'est pas une administration qui fait un pays.
Hein. Une identité.
Oui, il y a une Bretagne administrée et une Bretagne. C'est pas la même chose. L'administration fait pas un territoire. Actuellement, les gens, à 75%, ils sont bretons, même s'ils n'en voient pas l'importance. Mais depuis les années 70, en Europe, partout, il y a un développement régional fantastique que les Français ne voient pas. Hein. Il y a une étude, par exemple, de Marcoux, remarquable sur le sujet. Les deux pays qui sont des exceptions, c'est la Grèce, avec les périphérias, et la Bretagne, et la France, avec des bouts de région qui ont des budgets extraordinairement faibles.
Ce qui est finalement le débat démocratique à partir de cette réforme territoriale imposée d'en haut, est-ce que vous n'êtes pas déçu là aujourd'hui par l'ampleur de ce débat? Quelque part, c'était peut-être une occasion à saisir par les élus pour remettre un peu, rejouer carte sur table, repenser leur réseau de villes, identifier leurs avantages, les inconvénients.
Oui, alors moi je ne vais pas faire des analyses politiques, hein, c'est pas mon métier, mais. On a quand même l'impression que le débat est resté un peu de surface avec des questions uniquement financières, parce que c'est un peu la carotte financière qui fait avancer ces projets. Et derrière...
On parle de surface financière, je crois.
De surface financière, c'est intéressant. Alors que nous, pour nous, les surfaces, ou les espaces, sont beaucoup plus des territoires. Et finalement, le support de la vie des gens. Donc dis-moi comment tu organises ces périmètres. Et je te dirais comment tu facilites la vie quotidienne des populations. Donc, il faudra aller beaucoup plus loin sur les projets d'aménagement des territoires. Et même, vous voyez, dans les expressions, on parle du développement durable tout le temps, mais il y a des développements régionaux et locaux durables. Les solutions à apporter à Midi-Pyrénées sont sans doute pas les mêmes que celles pour la Bretagne. Et même en Bretagne, quelque chose qui est idoine pour le territoire de la Brière, c'est pas la même chose pour le Léon ou le Marais de Dole, etc. Enfin, on a des complexités très fortes. Et la prise en compte de ces complexités est le moteur pour l'avenir. Il faut redécouvrir la complexité. On ne peut pas faire la même chose partout. Et ce que vous disiez tout à l'heure, l'ouverture et puis la réinscription dans les lieux, c'est quelque chose de central. Il faut à la fois regarder ce que font les autres et en même temps, après, on ne peut pas faire du copier-coller. Il faut avoir quelque chose de très adapté aux ressources dont on dispose en propre.
Des processus dynamiques en somme.
Oui, et puis des processus aussi démocratiques. Moi, je suis surpris de voir, par rapport au blocage de l'État, je parlais de l'énergie, par exemple, c'est comment aujourd'hui les gens se prennent en charge, mais par la force des choses. Parce que au niveau alimentaire, c'est cher, au niveau énergétique, c'est cher. Et il y a des mouvements de citoyens pour créer des éoliennes à Bégane. Vous avez l'exemple du Méné que j'évoquais tout à l'heure. Partout, ça bouge. Et ça bouge plus, je crois, pour des raisons idéologiques, parce qu'il n'y a pas le choix. J'étais frappé en voyant que le prix des 1000 litres de fuel, ça dépasse les 1000 euros. Et bien, les gens ne peuvent plus. Donc, ils commencent à regarder comment je peux me chauffer, échapper à la précarité énergétique. Et tout ça recrée aussi du lien social. Alors, c'est pas, c'est pas une utopie, mais je suis, moi, extrêmement optimiste. Cette crise-là, c'est plus une mutation fantastique. Et avec des sociétés qui sont, de ce que j'évoquais dans mon dernier livre, hein, de plus en plus ouvertes par Internet au monde, et en même temps, par la force des choses, de plus en plus reterritorialisées. Et aujourd'hui, il faut marier ces deux éléments-là pour plus de prospérité.
Bien, Jean Olivreau, je vais vous remercier. En disant que l'appel, quand même, a retenu l'intérêt des gens, des citoyens. Il y a plus de 500 signataires là aujourd'hui. Donc, il continue à faire visiblement son petit bonhomme de chemin. Merci.